Dissidence. Dissidence, l'émission politique tactique qui mène la danse. Rouen Alternatif, Attaque, Valério et Judy regardent ailleurs et autrement tous les samedis matins entre 11h et midi sur le 99.1. Dissidence rediff dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du mat.
Dissidence. Auditrice, auditeur, bonjour, bienvenue sur Dissidence, sur HDR, la radio que je préfère. Cette semaine, l'émission Dissidence va être animée par les Alternatifs avec Thomas, Daniel, Benoît.
Bonjour.
À la technique, c'est Shérif et notre invité, c'est Eric. On vous en reparle dans une seconde. Vous avez pu apprécier ces quelques instants de silence avant le début de l'émission. C'était pour réaffirmer notre solidarité avec le peuple palestinien de Gaza. La dernière émission qu'ont animée les Alternatifs portait justement sur la situation en Palestine. Nous étions revenus en particulier sur le fait qu'Israël avait rompu la trêve qui existait avec le Hamas et que cette trêve risquait fort de se traduire par un retour des roquettes et malheureusement, nous avions raison. Actuellement, le peuple palestinien, dans son ensemble, en particulier celui de Gaza, subit un massacre extrêmement violent. On n'arrête pas chaque jour de découvrir une nouvelle école, un nouvel hôpital détruit sous le feu de la mitraille et des bombes israéliennes. Comme les Alternatifs, vous voulez réaffirmer votre solidarité avec le peuple palestinien, n'hésitez pas à vous joindre lundi à 18h devant le palais de justice de Rouen, où le collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, qui regroupe de nombreuses associations, partis politiques, syndicats, vous appelle à tous les Rouennais et tous les habitants de l'agglomération à vous joindre à nous pour faire une grande chaîne humaine dans la rue Jeanne d'Arc afin de montrer notre solidarité avec nos frères palestiniens. Dans cette guerre qui est une guerre politique, ce n'est pas le thème de l'émission, chers auditeurs, chères auditrices, mais il nous semblait important quand même de réaffirmer ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce droit des peuples à vivre en paix et en sécurité. Et c'est pour ça que nous voulions revenir sur ces tragiques événements de Gaza.
Et alors, quel est le thème de l'émission aujourd'hui?
Alors, le thème de l'émission sera un peu moins grave, puisque aujourd'hui, nous allons parler des gens. Tiens.
Et des identités.
Des identités, ils me laissent pas finir, ils sont au taquet. Hein. Et chers auditeurs, il y aura même une troisième partie. Nous essaierons de voir ensemble pourquoi tout le discours sur les discriminations est un discours...
De droite.
De droite. Alors, effectivement, c'est une idée que vous n'avez peut-être pas encore beaucoup eu l'occasion d'écouter, mais HDR va vous en faire bénéficier aujourd'hui, d'ici quelques instants. Alors, pour parler de ces questions, nous avons aujourd'hui avec nous Eric, qui est chercheur sur ces questions de genre, et d'identité, mon accent rouennais me trahit, et qui par ailleurs est un militant des Alternatifs. Alors peut-être...
Bonjour
Eric,
bonjour,
bienvenue. Ouais. Peut-être que pour commencer, le plus simple, c'est de se demander qu'est-ce que c'est que le genre. C'est un mot qu'on commence à voir apparaître de ci, de là, mais qui reste quand même quelque chose de très très vague pour nous. Alors Eric, est-ce que tu pourrais éclairer nos lanternes?
Effectivement, si on se replace il y a à peine 10 ans, le mot genre, on se demande bien ce que ça pouvait bien vouloir dire. On a de vagues images d'instituteurs nous disant nom commun, masculin, féminin, on a des expressions, hein. Il a mauvais genre. Je trouve d'ailleurs que mes petits camarades là autour de la table ont un peu mauvais genre ce matin.
C'est vrai qu'on n'est pas prêt.
Pourquoi tu dis ça?
Ou il a bon chic, bon genre.
Ah oui.
Oui, ça aussi. Oui. Alors on mêlait des choses un peu diverses, ou des choses qui relevaient de qu'est-ce que c'est que ce qui est masculin, ce qui est féminin, mais aussi des choses qui relevaient de l'identité sociale. Bon. Mais en fait, ce mot-là, c'est pas du tout le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Effectivement, t'as bien raison. C'est d'un vague absolu. Aujourd'hui, grosso modo, on met sous le mot genre tout ce qui relève du discours sur les femmes, sur les hommes, sur les gays, les lesbiennes. Enfin, tout ce qui concerne des choses qui tourneraient autour des identités sexuelles.
Les mœurs.
Les mœurs aussi. Absolument. Alors bon, là il y a un truc qui s'est passé, un truc un peu bizarre, qui est le voyage d'une idée. On est en pleine mondialisation, il y a les gens qui voyagent, puis il y a les idées qui voyagent. Et puis les idées, elles ont voyagé en faisant un aller-retour France-États-Unis, retour France. Et effectivement, le mot genre, son origine, c'est une tradition française. C'est une tradition française qui s'inscrit dans deux domaines. D'abord, les féministes français, qu'on connaît pas bien.
C'est qui ? C'est qui ?
Est-ce que t'as des exemples ? La première, c'est la bonne Simone, la grande Simone, qui nous dit, en 1946, ça commence à dater. Hein.
Simone de Beauvoir.
Ah oui, c'est Simone de Beauvoir. c'est Jean-Saul Part. Hein,
oui. Effectivement, chers auditeurs, n'hésitez pas à écouter ce qu'on vous dit, c'est très sérieux quand même. Hein, on en est à Simone de Beauvoir.
Bon, elle nous dit, on ne naît pas femme, on le...
devient ouais, bon, un point de féminisme.
Ça. Mais il y a plein d'autres militantes féministes après qui ont en fait défini une vraie doctrine féministe française matérialiste. Ça veut dire quoi ce truc-là ? Ça veut dire que elles se sont intéressées à voir comment les inégalités hommes-femmes ça s'inscrivait dans le matériel, le concret. Par exemple, les militantes féministes françaises ont inventé toute une idée autour de la lutte de sexe sur le modèle de la lutte de classe. Elles ont inventé une notion comme le sexage qui reprenait...
Sexage.
Oui, le sexage.
Sexisme, peut-être, tu veux dire, Eric, non ?
Non. Elles ont inventé le sexage sur le modèle de l'esclavage.
Ah, d'accord.
Et elles ont cherché, elles ont défini tout ce qui... matériellement, concrètement, faisait une exploitation des femmes par les hommes.
Alors Eric, je te coupe tout de suite parce qu'on a reçu un mail là à l'instant qui nous demande est-ce que derrière cette expression matérialiste, c'est par exemple le fait que généralement ce sont les femmes qui nettoient les toilettes ?
Absolument, c'était ces féministes françaises, elles ont dit, il y a comme de la même manière, il y a une exploitation dans le travail, une exploitation du travail des femmes, du travail gratuit des femmes, et elles ont développé tout un courant de pensée original dans le monde, et qui a eu un succès énorme, pas en France, évidemment.
Ah bah oui, non.
Mais aux États-Unis. Alors ça c'est un premier courant qui a influencé. Puis il y a un deuxième qui est tout aussi français. C'est un philosophe français qui a beaucoup réfléchi sur ces questions-là. Alors qui est très connu aux États-Unis, très peu en France aussi. C'est Michel Foucault. Alors Michel Foucault c'est pas Jean-Pierre. Hein. Pas des millions avec Michel Foucault.
On gagne des millions d'idées.
D'idées.
Ah oui. Voilà.
Alors ça c'est autre chose. Ce monsieur-là il nous a inventé quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens comme ça qui font des inventions. Il nous a montré que, grosso modo, être un homme, être une femme, tout cela, ça s'est inventé. Ça s'est inventé progressivement, qu'on peut en faire une histoire, une vraie histoire. Et qu'on peut dater le moment où on invente une certaine conception des femmes, une certaine conception des hommes, et évidemment, si on a été capable de l'inventer, ça change. Et qu'il n'existe du coup aucune nature qui serait une nature de femme, aucune nature qui serait une nature d'homme, et que toutes les idées qu'on a là-dessus, les âmes, les femmes, ça travaille à l'intérieur. Les hommes, ça va travailler à l'extérieur, ça va de soi. Tout ça, c'est construit, et on peut même le dater. On peut en faire des kilos, mais c'est au tournant du 18e siècle et du 19e siècle qu'on se construit cette idée-là, dans une perspective d'ailleurs qui est une perspective économique.
Et donc là, en fait, en gros, il a développé, approfondi toute cette idée, on ne naît pas femme, on le devient, de même qu'on ne naît pas homme, on le devient, etc.
Absolument. Il date précisément aussi, par exemple, tout ce qui est l'invention de l'homosexualité et de l'hétérosexualité. Mmh. Alors, il y a des dates. Hein. Le mot homosexuel, il est inventé en 1876. Et en riposte ou en correspondance, du coup, il a fallu inventer un autre mot pour créer les autres. Mais on les crée. Et l'autre mot, c'est hétérosexualité. Il est né en 1922. Il y a 40 ou 50 ans, année de décalage entre les deux. Mais cette idée, ce qu'il invente, ce monsieur-là, c'est qu'à un moment, on a construit des discours des discours, l'institution psychiatrique a construit des discours, l'université a construit des discours, et que ces discours, ils ont forgé, construit les réalités en fait qu'ils énonçaient. On y reviendra là-dessus.
Et tu viens de nous dire donc que le genre est construit, je voulais juste juste rajouter à ce que tu viens de dire là que finalement le genre essayer d'ajouter quelque chose sur ce qui n'est pas le genre justement. Alors ce qui n'est pas le genre, c'est donc ce qui n'est pas construit, c'est donc en quelque sorte ce qui est un peu inné, c'est-à-dire à la naissance. Puisqu'on ne naît ni homme, ni femme, ni tout ce que tu veux. Enfin bon, on est soit, c'est un petit rappel un peu scientifique, on est soit XY, soit XX, soit dans certains cas, effectivement, de malformation ou de déformation, XXY ou XYY. Ça existe, c'est très rare, mais ça existe. Et on peut comprendre que du coup, pour ces personnes-là, le genre... entre guillemets, celui qu'on a l'habitude de donner, soit homme, soit femme. Hein. Du coup, on a du mal à définir la personne simplement avec le genre, on va dire le genre classique, tu vois. Donc du coup, c'était pour rajouter ça, quoi, que du coup, on ne naît ni homme, ni femme, mais on est simplement XX, XY, ça, c'est ce qui n'est pas construit, c'est ce qui est biologique, et tout le reste... C'est ce que nous avons appris à construire ensuite.
C'est ce que l'on devient.
Alors ça, c'est Michel Foucault, hein, qui invente, qui développe tout ce courant de pensée.
Et en même temps, il n'a jamais utilisé le mot de genre.
Alors voilà.
Alors, jamais.
Qu'est-ce qui se passe ensuite
Alors tout ça arrive aux États-Unis où là il y a des féministes américaines, et notamment une dame qui s'appelle Judith Butler. Qui pond en 1990 un bouquin qui a eu un énorme retentissement qui s'appelle Gender Trouble, trouble du genre. Le mot genre est inventé. Alors, c'est pas très original. Elle reprend les idées, tout se construit. Effectivement, le sexe biologique dont parle Thomas n'est absolument pas suffisant pour définir un homme ou une femme. Mais elle va plus loin parce qu'elle travaille, elle, sur les transsexuels. Et elle dit, en fait, grosso modo, les transsexuels, ils nous apprennent quelque chose. Ils nous apprennent que on peut construire des identités qui sont différentes de ce qu'on appelle traditionnellement un homme, de ce qu'on appelle traditionnellement une femme, et que l'expérience que l'on fait de son corps, de sa sexualité, transforme matériellement encore, hein, transforme les identités. Et du coup, qu'il n'y a pas homme-femme, il n'y a pas non plus homosexuel, gay, lesbienne, il y a des quantités d'identités, et que c'est, il y a une fluidité entre les identités. Et elle nous invite vraiment, cette dame-là, à, on va lancer un gros mot, hein, épouvantable, à déconstruire. Alors, ça veut dire à changer sa place par rapport aux identités. C'est-à-dire qu'on a des tas de trucs reçus, elle nous invite à dire, attention, ça c'est ce qu'on m'a dit que ce que j'étais. Maintenant, si j'essayais de voir comment moi je peux bouger par rapport à ce qu'on m'a dit de ce que j'étais. Bon, alors c'est revenu en France au tournant des années 99-2000. Je crois que la première fois qu'on a utilisé à Rouen le mot genre, ça devait être en 2000. Je suis un peu coupable et responsable. Oui, j'assume. c'est extrêmement récent. Puis on en a fait autre chose, mais ça on le dira après.
Alors,
retour en France, on en a fait autre chose.
Allez, une petite pause musicale, ouais, puisqu'on vient déjà de recevoir trois mails qui nous demandaient un morceau qu'on vous passe tout de suite.
Dissidence, l'émission politique tactique qui mène la danse. Ou alternatif, attaque, Valerio et Judy regardent ailleurs et autrement tous les samedis matins entre 11h et midi sur le 99.1. Dissidence, rediff dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du mat. Dissidence. See you.
Voilà, retour sur HDR. Donc c'était une chanson de Catherine qui s'appelle Être humain. Et donc justement là on a la pochette du disque dépliée et je l'ai passée à Eric qui peut à ce propos nous faire un petit commentaire un peu amusant sûrement, non?
Ah non mais moi j'adore. J'adore complètement. Alors ce monsieur il est habillé en mauve et en vert avec des collants. Les dames sont pareilles. Ce monsieur là il joue pas mal sur les genres.
Ouais, sur la déconstruction justement dont on parlait. Allez chers auditeurs, on retourne s'intéresser aux genres et aux identités. On vous a laissé juste avant Catherine au moment où les idées développées en France, notamment par Michel Foucault et reprises dans une certaine mesure par Judith Butler, allaient revenir en France. Alors, qu'est-ce qui se passe, Eric, au moment où les idées de Judith Butler reviennent en France ?
Ben, bon, elles arrivent, elles sont reprises d'abord par le mouvement gay et lesbien renaissant à ce moment-là. Et ce qui se passe, c'est ce phénomène un peu curieux. Parce que bon, Madame Butler nous invitait à dire bon, les identités c'est une chose, mais enfin on va relativiser tout ça. Il y a beaucoup plus de fluidité. Et ben c'est pas du tout ce qui s'est passé en France. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Au lieu de dire il y a des identités qui sont relatives et tout ça s'est construit, donc ça peut changer, on s'est mis à les fossiliser à tour de bras. Alors bon, dans le mouvement gay lesbien, on s'est dit ah ben non, il y a des gays, il y a des lesbiennes, il y a des bi, il y a des trans. Maintenant on dit il y a des intersexes. On s'est mis à on s'est mis à fossiliser aussi les identités culturelles. Et oui, on s'est mis aussi à définir de manière beaucoup plus précise des gens qu'on entendait par beurre, des gens qu'on entendait par fudge, des gens qu'on entendait par black. On a fossilisé les identités en France, ce qui est absolument l'inverse du discours que ça devait provoquer. Mais ça, on y reviendra dans la troisième partie sur les discriminations.
Ok, c'est cette question des genres, je pense, est donc du coup directement connectée à la question des identités. Hein, puisque si on repart de Foucault et de Butler, hein, c'est toute l'idée qu'en fait, les identités sont construites.
Absolument.
Alors, la question que je me pose, c'est comment se passe ce processus de construction ?
Alors, bon, oui, tout à fait, c'est une vraie et bonne question. Alors, pour éviter les baratins, il y a un monsieur qui s'appelait Althusser, on va laisser tomber, il a tué sa femme, bon.
Mais qui avait inventé... Qui ça ?
Althusser. C'est un philosophe, mais il avait inventé ce qu'il appelait lui un petit théâtre théorique. Alors on va la redire, où on s'imagine dans une rue passante, la rue Jeanne d'Arc.
Par exemple. Amis auditeurs qui n'êtes pas de Rouen, la rue Jeanne d'Arc, c'est une des rues centrales de la ville de Rouen.
Centrale en Rouen, ouais. Bon, bah, y a, on est en pleine solde, il y a des gens qui passent. Et puis au milieu de la rue Jeanne d'Arc, il y a un flic qui est là. Bon, il fait la circulation, ce brave homme. Hein.
Donc Daniel, tu veux bien faire le policier? Bon, bonjour,
oui,
monsieur.
Daniel fait le policier, il fait très 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 bien le policier. Et puis bah, tout le monde va à ses occupations. Et puis il y a un moment, il y a le flic qui dit « Hé, vous là-bas !»
Dites donc, oh, Cruchot.
Personne ne sait à qui il s'adresse, ce flic. Personne ne sait à qui s'adresse cette interpellation. Sauf que immédiatement, dans la foule, eh ben, y a des gens qui vont s'arrêter. Et il y a des gens qui vont continuer.
C'est pas moi.
Ça veut dire immédiatement que des gens vont se sentir concernés par l'interpellation de ce policier qui a le pouvoir.
Stigmatisé.
Et d'autres qui vont passer leur chemin parce que d'emblée, ça s'intéresse. Hein. C'est pas à eux que le policier s'adresse. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui, par avance, savent qu'ils sont la cible du pouvoir, qu'ils ont une identité qui est visée par le pouvoir, et que d'autres, eux, se savent épargnés par le pouvoir. Alors, ça quand même, c'est impressionnant, ce pouvoir, il se trompe jamais de cible. Quand même, magique.
Parce qu'il leur a juste dit « vous là-bas ».
Oui,
c'est que certaines personnes qui vont se retourner sur leur trajet.
Et donc sans... ça entraîne des mouvements de corps. C'est le corps qui est directement interpellé par le pouvoir. Bah, ça veut dire ça. Ça veut dire que les représentations, elles existent avant même qu'elles agissent, qu'elles sont là. Qu'elles sont là directement, d'emblée, avant même que les personnes ne naissent même. Et que toute personne dans sa vie, dans son expérience, est directement interpellée dans son corps, dans sa vie, par ces représentations. Alors comment ça marche ? Y a un gros, énorme. Procédé, c'est que pour faire fonctionner les identités, il faut les réduire. Il faut les réduire. Il faut inventer des catégories de personnes. Et le mot catégorie, il est intéressant.
Des cases.
En grec, catégorie, ça vient d'un mot grec qui signifie accuser publiquement. Et quand on range quelqu'un dans une catégorie, eh bien, en même temps, on l'accuse publiquement. Alors ça, il y a tout un processus qui fait qu'on a rangé des gens dans des catégories.
Par exemple, homme ou femme pour le...
Homme ou femme, gay, lesbien. Mais aussi arabe, jeune beurre, mais aussi toute personne qui est réduite qu'à une seule de ces dimensions. et avec tous les préjugés qu'il y a derrière, hein, toutes les représentations. Quand on dit arabe, on dit dans des représentations françaises, on reprend toute l'histoire coloniale, tous les préjugés coloniaux qu'il y a derrière. Et notamment quand on est en France, on reprend aussi toute l'histoire de la guerre d'Algérie. Et on reprend les autres mots qu'il y a derrière. On reprend des mots pas gentils. Hein.
Il faut avoir en tête par rapport aux stéréotypes là, qu'évoque Eric sur la colonisation. Hein, si vous avez oublié vos cours d'histoire du lycée, je fais une petite parenthèse. C'est juste pour dire que la fin du 19e et le début du 20e étaient marqués en France par l'existence de zoos humains, hein, dans lequel allaient des millions et des millions de Français, où on leur présentait le noir, il est comme ça, le jaune, il est comme ça, l'arabe, il est comme ça, et où petit à petit, pendant des dizaines d'années, on a ancré une culture coloniale populaire, c'est-à-dire que on a ancré dans l'immense majorité de la population des stéréotypes. Hein, le noir, il est feignant, il est souriant, il a la danse dans la peau, et puis il faut le taper un peu, la pub de Banania, quoi.
Ouais.
Hein, l'arabe, il est voleur. Et de là, et tous ces stéréotypes, on les a hérités, hein, et restent en arrière-fond de l'inconscient collectif.
Alors, pareil sur le black, préjugé, tu parlais aux humains, préjugé d'animalité. Alors ça, c'est ça apprend parfois des visages curieux. Hein, ah bah il court plus vite. Non mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mais ça veut dire que dans la tête des gens qui énoncent ça, il y a l'idée que y aurait une proximité, l'idée du fauve, enfin
La
panthère noire.
Oui, on met en avant uniquement des qualités physiques, on dénigre tout ce qui pourrait être intellectuel.
Oui, et puis on dénigre surtout le fait qu'une personne c'est en fait plein d'identités. J'avais dit que je ferais le coup, mais moi, l'une des définitions majeures, c'est que j'aime le chocolat.
Tu aimes le chocolat?
Oui. Je suis enseignant d'histoire-géographie. Bon, enfin pas.
Première identité. Prof.
Ouais. Je suis un peu gay.
Deuxième identité.
Mais j'aime le chocolat.
Troisième identité.
Mais il se trouve que si au bout du compte, on regarde les stéréotypes, on n'en retiendra qu'une. C'est la boîte.
C'est le chocolat.
C'est pas celle du chocolat. Et pourtant, je pense que ça me définit pas mal. j'ai toutes les rondeurs qui permettent de le dire. Réduire, c'est un procédé de pouvoir. Justement, ça donne en même temps. Ça marche comment aussi ? Ça marche par le langage. S'il y a des endroits où se produisent les discours qui enferment, l'institution psychiatrique en a produit, l'institution universitaire en a produit, et ça se concrétise, ça fait de la réalité. Alors il y a un mot bizarre, on dit que le langage il est performatif, c'est-à-dire qu'il crée la réalité qu'il énonce.
Ouh là 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 là. Je sens, chers auditeurs, que sur le langage perforatif, il vous faut un petit exemple. Performatif.
Toi, tu veux perforer.
L'injure, c'est très simple. On dit raton. On dit pédé. On dit salope. Eh bien, la personne, alors tout de suite, il s'inscrit d'emblée, un rapport dans lequel il y a quelqu'un qui se donne le droit d'émettre l'injure, et l'injure, c'est quasiment comme si on sortait un excrément de sa bouche. Et de ce fait, on considère l'autre comme un excrément. Et
d'ailleurs, chômeur,
motard, ça commence. C'est vrai.
Intermittent.
L'injure, c'est espèce de merde. L'injure, c'est un excrément. Et c'est considérer l'autre comme un excrément. Il y a celui qui, tout de suite, ou celle, qui se donne le droit d'injurier. Et il y a la personne qui le reçoit, qui immédiatement est en position d'infériorisation. Eh bien, l'injure, elle crée le rapport dominant-dominé qu'elle énonce. Quand je dis salope, je postule immédiatement que la personne que j'ai devant moi est une femme saturée de désir, que d'ailleurs l'objet unique de cette personne, c'est d'être un objet désirable. Et je postule tout de suite que le but unique de cette personne, c'est de répondre à mon désir. Tout ça, c'est d'emblée. Ça montre aussi comment on peut essayer de contourner tout ça.
Et c'est ce qu'on va voir juste après la pause, puisqu'on vient de recevoir un mail d'un certain Mathieu qui habite dans le 10e arrondissement de Paris et qui voudrait écouter « Je veux te voir » de Yael. Allez, c'est parti.
Dissidence,
l'émission politique tactique qui mène la danse. Ou alternatif, attaque, Valério et Julie regardent ailleurs et autrement, tous les samedis matins, entre 11h et midi sur le 99.1. Dissidence rediff dans la nuit, de dimanche à lundi à 1h du mat. Dissidence.
Cuisinier avec ton petit sexe entouré de poils rouges, je n'arrive pas à croire que tu puisses croire qu'on veut de toi. Je n'y crois pas même dans le noir, même si tu gardes ton pyjama, même si tu gardes ton peignoir en forme de t-shirt ringard. Garde ta chemise, ça limitera les dégâts bâtards. Je veux te voir dans un film pornographique, en action avec
Chers auditeurs, bien joué, quel retour en fanfare.
Mauvais gens.
Auditeurs, auditrices, bienvenue sur HDR Dissidence, animé cette semaine par Les Alternatifs. Avec Shérif à la platine, on vient de découvrir qu'on pouvait être à la fois femme, homosexuel, arabe, juif, fonctionnaire et tout un tas de trucs encore. Bref.
Et aimer le chocolat.
Et aimer le chocolat en plus. Bref. Qu'on avait tous des identités, hein, que nos identités étaient multiples, même si on essayait généralement de nous réduire à une seule identité. Et bien entendu, généralement, l'identité perçue aux yeux de celui qui nous qualifie ainsi de la manière la plus négative. Alors, la question qu'on s'est posée juste avant la pause, hein, c'était de savoir comment se construisent ces identités. Hein, peut-être pour être un peu concret là-dessus, il suffit de prendre, par exemple, l'exemple des jouets. Hein, on vient d'avoir Noël, tout le monde a eu les catalogues de jouets qui ont submergé les boîtes aux lettres. Hein, et en 5 minutes à tourner les pages du catalogue de jouets, on voit bien que les pages des garçons sont bleues, celles des filles sont roses, que les garçons ont des jouets scientifiques, des pistolets, des petites voitures, que les filles ont la dinette, les poupées, la table à repasser, etc. Hein, ça c'est, on va dire, c'est tous ces éléments de construction qui font que dès le plus jeune âge, on nous enferme la société, hein, dans un moule dans lequel il faudrait que l'on soit.
Moi, et c'est-à-dire... J'ai eu une poupée noire.
Oui, et maintenant, t'es intermittent.
Qui se gonfle.
Le lien.
Oui, mais la tienne se gonflait.
Tu vois où ça mène. Donc, non, tout ça pour dire qu'effectivement, on est tous confrontés à des cadres. Hein, pour être un homme, il faudrait être comme ça. Pour être une femme, il faudrait être comme ça. Pour être un arabe, il faudrait être comme ça. Pour être un fonctionnaire, il faudrait être comme ça, etc., etc. La question qui se pose, c'est face à ces moules, entre guillemets, auxquels nous sommes confrontés, est-ce qu'il n'y aurait pas, Eric, des pistes qui nous permettraient de s'échapper du moule?
De déconstruire.
Oui, de déconstruire. Alors ça, le mot est très vilain.
Déconstruire le moule.
Non, mais il y a des choses, il y a une chose très simple. Ces représentations, on l'a dit, ces clichés, ils existent là. Mais la première chose, c'est d'en être conscient. C'est de comprendre que ce sont des clichés. Et c'est tout un boulot que de comprendre les clichés qu'on nous colle. Et ça passe par un boulot qui est un boulot de parole où on prend en conscience des stigmates, c'est-à-dire des manières dont on a marqué notre corps de toutes ces identités-là. Alors moi c'est pour ça aussi qu'on a vu apparaître à un certain moment des groupes de femmes non mixtes. C'est pour ça aussi qu'il y a probablement besoin, et ça n'existe pas suffisamment, de groupes de femmes immigrées, de jeunes immigrées, qui puissent dire quelle est leur expérience. Et à partir de là, comprendre que cette expérience de l'un, eh ben, elle est commune à l'autre. Ben, il y a une autre expression. En fait, tous ces gens qui sont confrontés au même cliché, ils vivent un parcours commun. Une espèce d'autobiographie collective. On a l'impression que chacun dans son coin, on vit un truc. Et en fait, on s'aperçoit que l'autre qui a la même, auquel est accolée la même représentation, il vit le même truc. Prendre le temps de se dire qu'on a une expérience commune dans des groupes de parole et prendre du coup de la distance vis-à-vis de ces représentations. Se dire, bah merde, au bout du compte, c'est pas moi.
Ouais, c'est une étiquette qu'on a voulu me coller.
C'est la catégorie qu'on m'a collée à la peau. Et comment coller ? Dans la peau. C'est la catégorie qui m'a fabriqué, mais c'est pas moi. À partir du moment où je suis capable de comprendre que les catégories qu'on m'a collées à la peau, c'est pas moi, ben je peux prendre de la distance par rapport à elles. Et je peux commencer mieux à dire, attendez, là, ce discours-là, il a été fabriqué par d'autres et ailleurs. Et ben moi, je peux, dans ma vie, je peux construire d'autres discours. Et il y a un enjeu, là, tout à fait considérable, qui est le fait de construire d'autres discours et de les amener comme des savoirs. Mon expérience, c'est un savoir. Et c'est un savoir qui vaut autant que celui qui est produit par l'université, qui a tout le décorum. Hein. C'est officiel, c'est estampillé, donc c'est le vrai. Non, mon expérience de vie, c'est aussi un savoir. Et ce savoir-là, il doit être admis au même titre que celui des experts, des machins, des trucs. Voilà.
Oui, comme tu disais tout à l'heure, par exemple, le mot immigré. C'est ce qu'on entend souvent aujourd'hui, un immigré, machin, etc. Qui ne veut absolument rien dire du tout. Qu'est-ce que ça veut dire pour la personne immigrée? Ça veut dire quoi? Immigré depuis quand? Qui? Qui est arrivé quand? Depuis quelle génération? L'endroit où je suis né ou l'endroit d'où je viens? Parce qu'il y a des personnes qui sont soi-disant immigrées, qui n'ont jamais mis un pied ailleurs qu'en France, par exemple. Hein, par exemple. Ou immigrées d'où? Du sud de la France ou du nord de la France?
Ou de Dieppe, parmi nous.
Ça va. Je ne laisserai pas me coller sur la tronche une étiquette de Dieppois. Non,
Thomas,
je proteste.
Thomas, tu es Dieppois.
Je ne suis pas immigré
breton. Alors.
Non, mais c'est pour ça. C'est assez quand même. On entend souvent ça. Même nous, on arrive. Même ceux qui essayent de ne pas tomber là-dedans, on arrive à utiliser le mot immigré ou d'origine. D'origine.
Non, c'est absurde.
Mais c'est absurde. C'est complètement absurde.
Alors ça, là vraiment, que des gens disent l'étiquette que vous nous collez, c'est pas la bonne. Désolé, nous, on est nés en France. Désolé, nous, on est allés dans des écoles françaises. On a fait la même chose que vous. D'ailleurs, on a aussi bien réussi que vous. Et bien là, à partir de là, on change la place. Et comme on change la place, on change le pouvoir et le rapport de pouvoir. C'est aussi là il y a dans pas très longtemps l'ASTI de Petit-Quevilly va faire
l'association de soutien aux travailleurs immigrés
va faire toute une formation sur les Chibani. Alors je sais pas, les Chibani, moi je connaissais pas. Alors c'est quoi? Ce sont les personnes âgées en milieu maghrébin. Bon, là en fait ils vont s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'être aujourd'hui un vieux immigré. Bah, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que là, déjà, on va prendre conscience que, effectivement, c'est une position particulière que d'être un vieux immigré aujourd'hui, et que c'est pas du tout la même chose que d'être né en France, que c'est pas du tout la même chose que d'être chômeur. Et enfin, là, je pense que vraiment, il y a tout un boulot.
Et effectivement, là, ce qui est intéressant, c'est que derrière cette nécessité de prendre conscience de ses identités, de comment elles sont construites, de qui les a construites, c'est que derrière, il y a fondamentalement des questions de pouvoir.
Absolument.
De comment la catégorisation permet d'exclure.
D'exclure, de fabriquer, de maintenir un ordre social. Hein. Et là, les questions, elles sont fondamentales, mais ça, c'est en troisième partie à nouveau. Bon, pour faire simple aussi, c'est une question personnelle que déconstruire. Moi, je dis détourner, se placer autrement.
Oui, oui, c'est
plus... C'est plus simple. Et ça dit... Parce que c'est dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours où tu me colles cette étiquette. Moi, je te dis que cette étiquette, je m'en fous. Et que j'ai une autre position par rapport à cette étiquette-là. Faut résister, hein. Faut résister aux étiquettes. C'est pas simple, mais une fois qu'on a compris quelles étaient, on peut le faire. Puis on peut inventer d'autres relations, d'autres espaces où aussi ça se dit, les identités, et où ça se déconstruit, mais on change de place.
Allez, sur cette belle parole, changeons de place, passons à de la musique.
Qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu ne sais que danser. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu ne sais que danser, tu ne sais que rater ta vie. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu ne sais que danser, tu ne sais que sortir de chez toi. On va faire de toi un homme, on va faire de toi une femme. On va t'utiliser pour des crash tests, on va te présenter à des derviches tourneurs. On va bloquer ton compte, on va te dire les astres, on va détartrer tes dents. On va te saupoudrer de saccharine, on va encadrer des photos dans ton salon et on va t'appeler les urgences. Alors,
qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu ne sais que danser, tu ne sais que rater ta vie. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu ne sais que danser, tu ne sais que sortir de chez toi. On va t'occuper avec des sitcoms, on va t'occuper avec ton surmoi. On va t'occuper avec des diplômes, on va t'aveugler avec des larmes. On va t'aveugler avec ta libido, on va débrancher tes neurotransmetteurs. On va te divertir avec des sosies, on va te divertir avec des BPM. On va penser à toi avec des CERM, on va penser à toi avec des SMS, on va penser à toi avec des airbags, on va t'envoyer en l'air. Ouais. On va t'inoculer de l'allégresse, on va t'injecter de la graisse, on va te faire des promesses, on va renier ton étoile. On fera de toi une victime collatérale, on te coulera dans le macadam. On va te diviser en pixels, on va multiplier ton quotient intellectuel, on va rappeler tes anciens amis, on va leur dire que tu filtres, on va changer ton théorème, on va trouver quelqu'un qui t'aime, on va trouver quelqu'un qui t'aime, on va trouver quelqu'un qui t'aime. Qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Des romances nerveuses.
Qu'est-ce que t'as dans la tête?
Des romances nerveuses.
De quoi as-tu envie?
Des romances nerveuses.
De quoi as-tu besoin?
Des romances nerveuses.
On va t'aimer sans condition. On va t'aimer sans raison. On va t'aimer sans fin. On va t'aimer sans fond. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Des romances nerveuses, qu'est-ce que t'as dans la tête? Des romances nerveuses, de quoi as-tu envie? De romances nerveuses, de quoi as-tu besoin? De romances nerveuses, 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 de romances nerveuses.
Auditeurs, auditrices, vous avez tous reconnu Qu'est-ce qu'on va faire d'Alistair, et vous aurez tous noté, vous qui avez écouté les différentes
qu'est-ce
chansons,
qu'on va faire de toi,
que Thomas Capron, notre chroniqueur musical, nous a choisi aujourd'hui uniquement des morceaux en rapport avec le thème d'émission.
Ouais.
Il y a aussi autour de la table Shérif, notre programmateur, Daniel le portugais, Eric le fan du chocolat, Benoît.
Benoît. On se disait le gauchiste.
Le gauchiste, on sait pas trop comment ouais, définir. Ou le palestinien.
Voilà, ouais.
Ou voilà, on sait pas.
T'as quasiment un trouble du genre.
Ouais, il va falloir que je fasse un groupe de parole pour essayer de redéfinir mes identités. Allez, on continue. On en était arrivé, je pense, toutes nos pérégrinations intellectuelles, hein, cette pluralité des identités et fondamentalement la question des rapports des pouvoirs qu'il se trouve derrière. Pose la question par rapport aux questions politiques, à la façon dont la société et ses instances politiques vont analyser cette question de la pluralité des identités culturelles, religieuses, sociales, tout ce qu'on veut. Et justement, par rapport à ça, le discours dominant hein, est celui des discriminations. Avec hein, tout un tas de groupes qui on entend de plus en plus parler de cette question des discriminations. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette question, Eric?
Bon, d'abord, tu as parfaitement raison. Les questions des identités, c'est une question du pouvoir. Et grosso modo, pour faire simple, hein, qui a le pouvoir? Il y a des exemples peu qui changent la donne aujourd'hui, mais c'est un homme blanc, hétérosexuel, riche. Et culturellement privilégié. Tous les autres, ils rament d'une manière ou d'une autre. Alors, sur le langage, sur les discriminations, pareil, en fait, grosso modo, il y a un peu plus de 10 ans, mot discrimination en France, d'où ça sort, ce machin-là. Et ça arrive à peu près en même temps que le discours sur les genres. Et il se trouve que ce mot sur les discriminations, il n'est pas porté par n'importe qui. Les premiers à l'utiliser, c'est Jacques Chirac. La première grande instance sur les discriminations, c'est la Haute Autorité de lutte contre les discriminations épaulées pour l'égalité. Ça s'appelle la HALDE. Alors, qui y a derrière ?
Qu'est-ce que c'est que ça, ce truc ?
La HALDE, bah justement, c'est ce qui est chargé de lutter contre les discriminations en France. Ça a été fait en 2004. C'est présidé par un monsieur qui s'appelle Louis Schweitzer et qui est l'ancien président de Renault.
Ouais.
Il y en a 11.
Ah bon ? Ouais, ouais, ouais.
Oula, oui, ça craint pour les discriminations.
Il y a 11 personnes qui dirigent la HALDE. Elles sont nommées par le président de la République, par les présidents de l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors on a par exemple Nicole Nota là-dedans aussi. Bon, alors il y a quand même un truc, faut quand même se le dire, la HALDE et toutes les autres sont créées par le pouvoir et sont créées par un pouvoir de droite. À quand même mettre un nom, faut appeler un chat un chat.
Oui,
faut
mais appeler Eric,
une étiquette,
le...
une étiquette.
Oui, mais Eric,
pardon.
Eric, le fait que la droite veuille lutter contre les discriminations, c'est bien, non ?
Oh, c'est drôlement bien. Mais mais moi, j'ai quand même l'impression qu'elle a quand même derrière, des idées. Et c'est pas rien, en fait, ce qui s'importe en France. Pareil, c'est un retour des États-Unis. Aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé sur les 20 dernières années ? On a remplacé la question sociale et la question des inégalités sociales, des inégalités économiques, on l'a remplacé par la question des identités. Aux États-Unis, ça s'appelle les cultural wars, les guerres culturelles. Et alors, on y est allé. Hein, d'un côté, les tenants de l'avortement. De l'autre côté, ceux qui luttaient contre l'avortement. Ça a occupé pratiquement tout l'espace public et politique aux États-Unis. C'est l'histoire des communautés, des affirmations communautaires, quelles qu'elles soient. Hein. C'est ce langage-là qui est arrivé en France et qui a le même but, éviter qu'on parle d'inégalité sociale, poser les questions de la société française en termes d'opposition culturelle. Alors qu'en France, on avait un autre modèle, on avait un modèle en échec profond, hein, et ça, il ne faut pas le nier, qui était le modèle dit républicain. En échec profond, il ne marche plus. Ça, on est d'accord.
Tu veux dire liberté, égalité, fraternité,
oui,
c'était ça le modèle
et,
en vrai
la
ou...
République et l'école lavent plus blanc que blanc.
Ouais.
On fabrique des personnes sur le même moule. C'est un modèle qui est en échec parce qu'il était faux. On a remplacé ce modèle-là par un modèle culturel qui est en train de produire des réalités. Hein.
Alors, pour essayer d'être concret, Eric, ça veut dire, je vais essayer de prendre un exemple, tu me dis si j'ai compris ou pas compris, ou s'il faut préciser. Quand on parle, par exemple, des banlieues, ça veut dire qu'au lieu de parler des inégalités sociales, du chômage, des questions, des temps partiels imposés, etc., etc., plutôt que d'aborder ça sur cet aspect social, on va parler de jeunes de banlieue ou de jeunes musulmans, avec toutes les représentations négatives qu'il y a derrière, tout sous-entendu musulmans, donc culturellement différents de nous, et donc responsables des problèmes. En
Absolument.
Gros, c'est ça.
Au lieu de parler de monde populaire, de quartier populaire confronté à la pauvreté, au chômage de masse, à la précarité, eh bien, effectivement, on veut voir des jeunes de banlieue qui seraient culturellement marqués et la question ne serait pas celle de la précarité dans laquelle on les a foutus, mais ça serait celle d'une identité supposée avec tous les préjugés qu'on connaît. Hein. Et ce discours, il est dangereux. On peut aller un peu plus loin, hein, parce que cette histoire de discrimination, et qu'est-ce que font tous ces machins, moi j'appelle ça des machins, qui s'appellent la HALDE, mais alors à la préfecture il y a un truc qui s'appelle la COPEC. On vient de nous pondre, la Rachida Dadati vient d'inventer quelque chose auprès du parquet qui serait supposé instruire des plaintes pour discrimination. Qui va y aller là-dedans ? Enfin, faut être sérieux. Ce langage sur les discriminations, il se coupe toute possibilité d'agir. Il repère des choses qui seraient des statistiques. Alors, les personnes, hein, ça n'existe plus. Ou alors, il faudrait que les personnes arrivent à prouver qu'elles sont discriminées.
Ah,
il
n'y
a rien de plus compliqué.
C'est la discrimination positive, un peu,
alors,
en fait.
C'est aussi, ça, dans ce même discours, Ah, t'as parfaitement raison, Thomas. Arrive le discours sur la discrimination positive. Et on a bien compris.
Comme si c'était que, positif déjà.
Que le nouveau président de la République, c'est l'un de ses chevaux de bataille. Plus jamais parler d'inégalité sociale. Plus jamais parler de problèmes sociaux. Et encore moins d'inégalité de répartition. Mais parler de discrimination positive.
Et en plus, dans le fond, quand même, ça rejoint, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, l'idée du choc des civilisations. Hein. Quelque part, il y a quand même cette même idée que tous les aspects sociaux ou économiques disparaissent derrière des éléments soi-disant culturels avec tout ce qu'on cherche à y attacher.
Bon, c'est absolument ça. C'est heureusement, il part dans deux jours. On est remplacé. Obama le remplace. Mais Bush, c'était quoi? C'était le représentant de l'aile conservatrice du Parti républicain. Et c'est elle qui a mis en place ce discours du choc des civilisations. Du fait que dans le monde, pareil, pas simplement que dans le monde, il n'y aurait plus qu'une opposition entre des civilisation et il n'y aurait plus d'opposition sociale, d'inégalité de répartition des richesses. Et d'une certaine manière, tu ouvrais l'émission sur la Palestine, sur Gaza. On a transformé le problème palestinien en un problème culturel. C'est la plus grosse bêtise que l'on ait pu. Et tous les médias le véhiculent. C'est pas ça le problème palestinien. Le problème palestinien, c'est une question nationale. De construction d'un État, et c'est une question aussi d'inégalité économique. Les deux se conjuguent, c'est compliqué. Il y a bien sûr aussi une dimension culturelle, mais c'est pas la première. Par contre, on est en train de transformer le conflit de cette manière-là. Alors moi, je voudrais dire aussi que ça produit d'autres choses, le discours sur la discrimination. Ça produit des choses qui s'appellent des victimes. Ça, c'est magnifique. On n'a plus de personnes qui fabriquent des infériorisations, des gens qui dominent. Par contre, on a cette figure là qui s'appelle la victime. Alors c'est pas terrible hein, d'être victime. C'est pas terrible. C'est à ce point pas terrible que moi depuis quelques années j'entends dans les couloirs du lycée dans lequel je travaille, dans les bus, j'entends les jeunes dire en train de, c'est une nouvelle injure.
Espèce de victime.
Espèce de victime. Bon, pareil, il y a 10 ans, personne n'aurait pensé que victime, ça pouvait être une injure. C'en est une. Pourquoi? Parce que la victime, c'est une victime de discrimination et que ce discours sur les discriminations, c'est bien un piège. Bon, allez, on dit un piège à con. Non, c'est pas gentil, mais c'est pas loin d'être ça.
C'est-à-dire derrière le bon sentiment sur lequel j'essayais de repartir tout à l'heure, de dire ah bah ouais, mais lutter contre le racisme, etc., c'est bien. Tout ce discours sur les discriminations est très dangereux et il faut que nous en soyons conscients des objectifs politiques, que derrière la façade politique un peu positive se cache quelque chose de plus dangereux, qui est de faire disparaître les questions sociales et économiques et fondamentalement les inégalités, et par derrière l'analyse de qui est responsable de ces inégalités.
Absolument. Hein,
pour les faire disparaître derrière des éléments culturel, où là il y a aussi une individualisation des problèmes, et la question ne serait plus de savoir qui est responsable, mais qui est la victime.
Absolument, et puis du coup on ne sait plus comment ça marche, les inégalités, puisqu'il ne s'agit pas de ça, puisqu'il s'agit de repérer des personnes qui seraient, de faire des statistiques de victimes.
Allez, chers auditeurs, on s'arrête sur cette très belle phrase.
La morale de l'histoire, cassons les cases.
Voilà,
cassons
allez, les cases. Déconstruction les genres, cassons les catégories. C'était les alternatives qui animaient cette semaine Dissidence avec Thomas, Daniel, Benoît, Shérif à la platine et notre invité Eric Puren. Merci beaucoup. Pour nous autres, on se retrouve dans 3 semaines avec deux invités de choc qui étaient au Forum Social Européen de Malmö. Et donc, le thème dans 3 semaines des alternatives sera cette question des forums social. Dissidence revient la semaine prochaine
et
avec une rediffusion.
N'oubliez pas lundi 18h.
Lundi 18h, Palais de Justice de Rouen pour réaffirmer notre solidarité avec le peuple palestinien. Allez, à bientôt.
Bye bye.
Dissidence, l'émission politique tactique qui mène la danse. Ou alternatif, attaque, Valerio et Judy regardent ailleurs et autrement tous les samedis matins entre 11h et midi sur le 99.1. Dissidence, rediff dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du mat.
Korozaza, iye korozaza, iye korozaza.